France Musique. France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre, dernier épisode de mon survol des utilisations possibles d'un orchestre de scène à l'opéra. Parfois, il n'y a pas de situation réaliste précise comme une marche militaire ou une procession religieuse. Ce peut être seulement une manière pour le compositeur d'élargir l'orchestre. C'est exactement ce que fait Bartok dans son chef-d'œuvre Le Château de Barbe Bleue, à l'ouverture de la cinquième porte, quand Judith lance son contrute à pleine voix face à la beauté du domaine de Barbe Bleue. Et là, en plus d'un orchestre déjà fourni, Bartok ajoute un orgue et quatre trompettes plus quatre trombones sur scène. Jesse Norman, Laszlo Polgár, Pierre Boulez et l'Orchestre symphonique de Chicago avec ses cuivres glorieux. À peu près au même moment que Bartok, dans le Château de Barbe Bleue que vous entendiez à l'instant, Richard Strauss fait encore plus fort avec la symphonie alpestre qui comporte déjà un effectif pléthorique sur le plateau, mais comme si ça ne suffisait pas, Strauss réclame dans les coulisses 12 corps, 2 trompettes et 2 trombones. Et pour jouer une minute, on n'avait pas de problème budgétaire à l'époque.
Thank you.
Alors ça, c'est l'infiniment grand, mais parfois, la musique de scène, c'est l'infiniment petit. Un seul instrument peut suffire. Richard Wagner était aussi spécialiste de cela. On a le cor de Siegfried, on a le cor anglais de Tristan. Je vous l'ai passé des dizaines de fois dans l'émission. Mais il y a un autre cor anglais sur scène chez Wagner, c'est dans Tannhäuser. Après le premier tableau, Tannhäuser s'est échappé du domaine de Vénus. Il se retrouve dans une prairie où il entend un jeune pâtre chanter une chanson en s'accompagnant sur son chalumeau. Eh bien, ce chalumeau, c'est un cor anglais. Il est sur scène, le cor anglais qui figure le chalumeau du jeune pâtre, chanté ici par un membre des Petits Chanteurs de Vienne. La musique de scène pour Wagner est l'occasion d'expérimenter sans cesse jusqu'à la musique concrète, avec ce que Pierre Boulez appelait des objets trouvés. Je pense évidemment aux enclumes de l'Ordurin, au moment où Wotan et Loge descendent dans les entrailles de la terre pour voler l'anneau, ils longent les forges où travaillent les Nibelungen. Il faut alors 18 enclumes que l'on place en général derrière la scène ou dans une pièce attenante. Au disque, on fait ce qu'on veut, surtout des cas dans la version Schulte. Et voilà, il joue 45 secondes, ceux qui font les enclumes dans l'Ordurin de Wagner. J'ai évoqué le sort des instrumentistes qui jouent la banda à l'opéra, qu'ils soient salariés comme à Vienne ou engagés au cachet comme à Paris. Mais parfois, c'est le chanteur lui-même qui s'y colle. Je pense à certains effets réalistes, comme le marteau du nain mime dans Siegfried quand il travaille le métal sur le même rythme que vous venez d'entendre. Mais aussi à Peter Grimes de Britain, lorsque la population soupçonne Grimes d'être un tueur d'enfants et que le voiturier Hobson se met à frapper du tambour pour inviter les villageois à le suivre jusqu'à la cabane de Grimes. Tout est réuni pour un lynchage et c'est le chanteur lui-même qui frappe le tambour. Saisissant, hein, le Peter Grimes de Britten, la version Colin Davis avec les chœurs et l'orchestre de Covent Garden. Le programme de mon parcours avec la banda et les musiques de coulisses nous a surtout conduit à l'opéra, un peu dans la musique sacrée, mais il y en a aussi en symphonique. Et là, s'il y a quelqu'un qui a su exploiter les ressources des instruments placés dans le lointain pour démultiplier l'orchestre, c'est bien Gustav Mahler. Quand je vous avais fait l'émission sur Mahler et l'orchestre, j'avais insisté sur le côté captivant du début de la première symphonie, avec ses sons de la nature, pleins de mystère. J'aurais dû ajouter les trois trompettes en coulisses, qui donnent l'impression d'écho lointain, de fanfare, sauf que là, le côté militaire devient poétique. Première de Mahler avec ses trompettes hors scène, la version Giulini Chicago, là où Mahler s'est vraiment surpassé en matière de spatialisation. C'est dans le final de la deuxième symphonie, La Résurrection, juste avant l'entrée du chœur. Il prévoit quatre chœurs et quatre trompettes dans les coulisses, comme un appel pour une cérémonie sacrée. Leonard Bernstein y voyait une évocation du shofar, cette corne utilisée dans le rituel juif pour lancer des sonneries lors des fêtes religieuses. Mais peu importe la religion, l'important, c'est l'effet sonore qui vous fait retenir votre souffle. On reste suspendu, surtout quand c'est Seiji Ozawa qui dirige.
Thank you.
des plus fascinantes utilisations de la musique de scène dans une symphonie, la deuxième de Mahler, le final, Seiji Ozawa et l'orchestre Saito Kinen. À l'opéra, la banda est le plus souvent utilisée comme un collectif. Il y a peu de solos. Parfois, un instrument s'en détache. Il y a l'interlude très poétique de l'acte 3 de La Dame de Pique de Tchaïkovski. Hermann est seul à la caserne, plus dépressif et angoissé que jamais après avoir provoqué la mort de la comtesse. Les cordes jouent dans la fosse, un chant traditionnel orthodoxe. Le climat est méditatif, mais il est interrompu par un appel de trompette, un clairon en fait, militaire, sur fond de roulement de tambour qui lui rappelle à la fois sa solitude et ses obligations de soldat. Et puis il y a les cuivres graves de la fanfare de coulisses qui entonnent l'équivalent russe du Kyrie. C'est Rostropovitch qui dirigeait l'Orchestre National de France et son trompettiste hors champ dans cet interlude de la Dame de Pique de Tchaïkovski. Et je terminerai mon parcours de la musique de scène par une autre trompette à la portée symbolique cette fois, celle de l'acte 2 de Fidelio de Beethoven. Le tyran Pizarro est sur le point de tuer Florestan, mais il avait ordonné à un guetteur posté sur une tour de sonner de la trompette dès qu'il verrait un mouvement de troupes. Au moment où Pizarro s'apprête à poignarder Florestan et où Léonore tente de s'interposer avec un pistolet, on entend une trompette dans le lointain. C'est l'envoyé du roi qui arrive pour mettre fin à l'arbitraire et à la tyrannie. Vous l'entendrez deux fois, cette trompette dans le lointain. Eh bien, la trompette de Fidelio a inspiré un grand philosophe du XXe siècle, Ernst Bloch, l'auteur du Principe Espérance, une réflexion très profonde sur la possibilité de l'utopie en plein nazisme. Eh bien, pour Bloch, la trompette de Fidelio, ce n'est pas un accessoire de théâtre, c'est l'espérance réalisée.
Wissen, wer ihm sein stolzes Herz zerfleischt, die Rache dunkel sei zerrissen. Sieh her, du hast mich nicht getäuscht, Pizarro, den du stürzen wolltest, Pizarro, den du fürchten solltest, steht nur als Retter, steht nur als Retter, als Retter.
Gelobt sei Gott. Wir kommen. Ja, wir kommen augenblicklich. Und unsere Leute sollen heruntersteigen und den Herrn Gouverneur hinaufbegleiten.
Okay.
dans ce quatuor de l'acte 2 de Fidelio de Beethoven, il y avait Gwyneth Jones, James King, Theo Adam, Franz Krass, Peter Schreier. Karl Böhm dirigeait la Staatskapelle de Dresde avec sa trompette hors scène qui symbolise la possibilité d'un espoir en pleine tyrannie. C'est ainsi que se termine ce panorama de la musique de scène ou de la banda. Un très grand merci à Marie Grou qui réalisait cette émission, à Nadège Antonini et Bastien Varigo qui se sont succédés à la technique et Élise Kravets qui réalisait la page internet cette semaine. La semaine prochaine, on retrouve l'Orchestre National. 4e épisode sur 5. Portez-vous bien et à très bientôt sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.